Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Ping. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Xavier Ouvrard, tu es le CEO de Babylou.
Bonjour.
Bonjour. Et je t'ai invité parce que je trouve que Babylou c'est assez exemplaire comme modèle de business, la manière dont vous faites le business est assez exemplaire. C'est un business qui n'est pas forcément très connu. Je crois, qui est nécessaire pour beaucoup de monde. Je ne sais pas si tout le monde connaît Babylou, mais ce que je trouve intéressant, en tout cas ce que j'avais retenu quand on s'est croisés, donc c'était à la CEC, c'est que vous êtes sorti de cette logique d'hyper-performance auprès des salariés pour maximiser la qualité. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a fait le succès de Babylou ?
Je pense que au point de vue managérial, il y a vraiment deux dimensions qui ont fait le succès de Babylou. La première, c'est le temps long. Je pense que c'est complètement intrinsèque à notre métier, parce que ouvrir une crèche, c'est lent. Une fois que tu décides où tu veux ouvrir une crèche, trouver le bâtiment, avoir les autorisations, recruter et former le personnel, etc., c'est 18 mois, 2 ans minimum. Et donc, pour que les collaborateurs aient le retour en fait, de leur investissement dans l'entreprise, c'est pas immédiat. Du coup, on est une entreprise totalement focalisée sur le temps long. La rétention est assez élevée chez nous, le taux de turnover des directrices de crèche est extrêmement faible, et les gens restent en moyenne longtemps dans l'entreprise. Du coup, ça a dû créer quelque chose d'assez fort dans l'organisation. Et le deuxième sujet, et ça, moi, j'ai vraiment mis du temps à le réaliser, je pense que les fondateurs de l'entreprise ne l'avaient pas forcément formalisé, mais ils le faisaient déjà. C'est ce que j'appelle l'amour du beau geste. C'est-à-dire que, en fait, dans une activité un peu parasociale comme la nôtre, donc une entreprise de crèche, courir après le résultat, ça marche pas. Mais pour autant, il faut faire du résultat. Donc, la question, c'était de se dire, mais après quoi on peut courir de motivant en dehors des grands discours de dirigeants? Et c'était de se dire, mais c'est quoi le beau geste? Et le beau geste, c'est la qualité au sens de la façon avec laquelle je vais me positionner c'est ce qu'on appelle une section dans le milieu des crèches. Donc, on a inventé une position qui s'appelle la position phare, où le collaborateur se positionne, ce qu'on appelle une professionnelle de crèche, c'est le nom qu'on donne aux collaborateurs dans notre métier. Une professionnelle de crèche va se positionner d'une certaine façon dans sa section, avec une capacité de vision, d'interaction différente. C'est ça le beau geste. Ouais. Et c'est pas « mets-toi là ». C'est « on travaille ensemble sur ce sujet ». Ça peut être la façon avec laquelle la directrice va ranger son bureau. En fait, elle le fait pas pour elle. Elle le fait pour les parents, elle le fait pour l'ensemble de l'activité. Et puis le dirigeant, il va se poser la question de se dire « mais c'est quoi, par exemple, le beau geste écologique si c'est quelque chose qui est important pour moi dans mon organisation ?» Et en fait, dans notre métier, par exemple, on a été pendant longtemps sur la consommation d'énergie, etc. Et c'est vrai que c'est important, mais la principale source de pollution chez nous, c'est les couches. Mmh. Et en fait, les vraies couches bio, ça n'existe pas aujourd'hui. Et là, on a enfin trouvé des startups, donc notamment grâce à la CEC, qui sont en train de travailler sur l'intégralité de la couche bio, c'est-à-dire même le petit bout de plastique qui sert à la fixer. Et en fait, le beau geste, c'est de permettre aux collaborateurs d'avoir ça et de travailler là-dessus, parce que en fait, remettre des couches en tissu dans toutes les crèches, ben en fait, c'est plus possible en 2022.
J'allais te poser la question du coup.
Voilà, mais c'est vrai qu'on y a réfléchi, mais c'est complexe. Donc voilà, je pense qu'entre le temps long et le beau geste, ça a permis à l'entreprise de passer une étape qui fait qu'aujourd'hui, je crois que c'est une entreprise de laquelle se dégage une véritable sérénité pour les personnes qui travaillent chez nous, malgré les difficultés qu'on peut avoir à recruter dans notre secteur, puisqu'il y a moins de diplômés chaque année que de places de crèche qui ouvrent. Donc, il faut générer cette sérénité pour que les gens aient envie de venir travailler chez
nous. Il y a toujours autant d'enfants? Ça dépend des pays, j'imagine, parce que vous êtes sur combien de pays?
Nous, on est dans 12 pays, donc c'est 50 000 enfants accueillis chaque jour, 12 000 collaborateurs. On est à la fois à Singapour, au Moyen-Orient, en Europe, donc surtout en France, en Allemagne, en Hollande, mais aussi au Luxembourg, ou en Suisse, ou en Belgique, et on est aussi en Amérique latine, en Colombie et en Argentine et aux États-Unis. Mais au global, on peut dire que la natalité, en fait, est quand même assez stable en France. Elle a légèrement baissé avec le Covid, mais elle est assez stable. On assiste à un regain de natalité en Allemagne.
Oui,
c'est complètement passionnant de découvrir ça, parce que pour la première fois l'année dernière, les Allemands ont fait plus d'enfants en valeur absolue que les Français, parce que le gouvernement allemand a réinvesti à fond, notamment dans la petite enfance, en créant des crèches, en créant des avantages pour les familles. C'était un pays où il y avait un concept dit de maman corbeau, c'est-à-dire quand la maman ne s'occupait pas de son enfant, elle était considérée comme quelqu'un qui n'était pas dans la bonne case dans la société. Et en fait, toutes les catégories mentales qu'on a sur l'Europe du Nord, c'est plus avancé, par rapport à l'Europe du Sud, etc., c'est pas forcément tellement le cas. Mais on va dire que ce qui compte, nous, dans notre métier, c'est pas tellement uniquement la natalité, c'est de se dire, est-ce que l'État, est-ce que les pouvoirs publics mettent en œuvre une infrastructure à la fois économique pour que les parents puissent se payer le service, s'il n'y a pas de subvention, il n'y a que les riches qui peuvent se le payer. Ouais. Et deuxièmement, est-ce que l'État met en place un système de contrôle qui fait que les acteurs privés ou associatifs, voire publics, vont avoir une conscience en fait, du métier qu'ils font. Et finalement, les pays où la crèche se développe de manière massive, à l'exception des États-Unis, parce que le pays est tellement puissant que c'est différent, mais dans tous les autres pays, c'est quand il y a l'État derrière. Donc nous, on est vraiment dans un métier où on travaille la main dans la main avec les pouvoirs publics.
Mmh. Et quand tu disais temps long et beau geste, il y a aussi cette idée de... Enfin, il me semble, hein, de ne pas pressuriser justement les personnes qui travaillent chez vous et qu'elles prennent le temps avec les enfants, le temps qui est nécessaire, en fait. Et parfois, j'imagine que ça doit supposer parfois de mettre plus de salariés quand c'est nécessaire.
Alors ça, c'est un véritable sujet. Chez Babylou, on a décidé d'avoir en moyenne à peu près 10% de salariés en plus que ce que nous demande la régulation. Donc ça nous coûte plus cher. Pour vous donner une idée, sur une place de crèche, assez souvent, quand on se compare à nos principaux concurrents, on a entre 10 et 20% de masse salariale en plus par place de crèche. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que les collaborateurs, les managers, tout le monde s'y habitue assez vite et on le voit plus forcément assez vite. Hein. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Donc, pour tenir ça dans un environnement de pénurie où il y a de moins en moins de personnes qui vont vers ces métiers parasociaux, c'est pas forcément évident, mais c'est un des secrets de Babylou. Parce que ça veut dire que quand on a quelqu'un qui est absent, quand on a une difficulté, on peut quand même tenir ses horaires. Et puis, ça donne un petit peu de souplesse à l'ensemble de l'équipe. Il y a des pays dans lesquels c'est un petit peu plus facile que dans d'autres, parce qu'on a des systèmes de soutien, des pouvoirs publics, de formation, etc., qui fait qu'il y en a un volume de professionnels qui arrive qui est plus facile. Et il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué, comme par exemple en Allemagne en ce moment, où à la fois il y a une croissance du métier des crèches, et en même temps, il y a une pénurie de professionnels. Donc là, tout simplement... on doit décider parfois, et c'est pas facile quand on est chef d'entreprise, de dire à ses actionnaires, mais écoutez, on va ralentir la croissance, on va ouvrir un peu moins de sites, et on va concentrer nos forces là où on est fort aujourd'hui. Donc c'est ces arbitrages en fait permanents, et ça nécessite un dialogue social aussi assez fort avec les collaborateurs. Juste un point qui me paraît très important, c'est le sujet de la croissance.
J'allais y venir justement.
Voilà, parce que j'y pense en parlant, mais il y a un an, j'étais en Allemagne. Nous, on est numéro un dans notre secteur en Allemagne, on a 100 crèches. Et il y a une collaboratrice sur le lancement d'année, il y avait toutes les directrices qui étaient là, qui me dit, mais comment est-ce qu'on peut faire de la croissance dans un univers fini, etc. Et en fait, ce que je lui ai répondu, c'est que nous, on est dans un métier où on ne peut pas prendre la croissance que comme le sujet de la consommation. La réalité des choses dans un pays comme l'Allemagne, alors c'est beaucoup plus vrai dans certains pays que dans d'autres, mais dans un pays comme l'Allemagne, c'est qu'il y a une telle pénurie d'offres de solutions de garde pour les parents que, en fait, ça bride complètement le statut de la femme dans la société. Et notre mission à nous, c'est de faire en sorte qu'on ait une offre éducative, parce qu'on fait, c'est de l'éducation. Et c'est ça que je lui ai dit, on ne fait pas de la garde, on fait de l'éducation, et on doit offrir cette solution au maximum de personnes pour que la société soit fluide, que les femmes puissent travailler, etc. C'est comme ça qu'il faut prendre le sujet. Après, il faut qu'on le fasse de la manière la plus responsable possible. Ouais. Donc, je pense qu'on a la chance de vivre dans un métier où le sens de la croissance est encore très positif. Mais malgré tout, on nous pose quand même tout le temps la question.
Et je vais continuer. Parce qu'en fait, quand on parle de croissance, en général, on parle de croissance financière. Je sais que tu sais ce que c'est que la triple comptabilité. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou comment vous, en particulier parce que vous avez des actionnaires, donc c'est beaucoup plus compliqué que pour des boîtes qui n'en ont pas. Comment tu gères cette situation où on sait que la croissance purement financière, elle atteint quand même ses limites à un moment donné. Même si effectivement, j'entends ce que tu dis hein, sur c'est un rôle social extrêmement important, l'éducation.
Bien sûr, nous en fait, on a beaucoup de chance parce que d'abord, on a un actionnaire majoritaire qui est un actionnaire français qui s'appelle Antin, qui est un actionnaire d'infrastructure. Donc, c'est des gens qui investissent sur le temps long, ils sont pas sur des business spéculatifs. Donc, ils ont une exigence de retour financier, mais avec une approche beaucoup plus profonde que beaucoup d'investisseurs. Et ensuite, on a les fondateurs, qui ont toujours une part importante dans l'entreprise, ce sont les deuxièmes actionnaires, et qui apportent en fait cette complémentarité. On a d'autres actionnaires, mais au global, on a la chance d'avoir un ensemble d'actionnaires des gens comme TA, comme Raise, qui sont des fonds très, très responsables. Et en fait, un des points clés, c'est que le management ne doit pas subir uniquement son actionnariat. En fait, quand on a des évolutions actionnariales, on discute avec les fondateurs, avec les actionnaires majoritaires, et on trouve des solutions pour avoir des gens qui nous ressemblent. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans notre métier, en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on n'est pas responsable, si on ne tient pas une comptabilité parallèle sur le carbone, sur des sujets comme, par exemple, tout ce qui vont être les incidents qu'on peut avoir dans les établissements, etc., les professionnels de crèche ne viendront plus chez nous. Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc, les actionnaires ont tout à fait conscience. Ça, je pense que c'est très, très important. En fait, d'ailleurs, je leur dis souvent, on va créer plus de valeur en étant les leaders de la qualité qu'en respectant notre business plan. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je respecte mon business plan. Mais ce qui se passe, et on le voit dans certains secteurs, c'est que le jour où tu as une faille de qualité énorme, où tu ne respectes pas la régulation, où tu ne remplaces pas ton personnel, où tu as des incidents graves dans tes établissements, et ton entreprise, sa valeur économique est trois fois plus détruite que si tu as raté ton budget de 3%. Mmh. Et ça, c'est un truc que les dirigeants n'avaient pas à l'esprit jusqu'il y a peu de temps. Et moi, pour moi, c'est vraiment une obsession. C'est-à-dire que, d'ailleurs, nos actionnaires, par eux-mêmes, avant même que je leur demande, m'ont demandé d'inverser l'ordre du jour des boards. Et on commence les boards de Babylou par la qualité et les ressources humaines, et après, on parle des chiffres.
Mmh. Donc, en fait, vous êtes quelque part, par défaut, vous êtes en triple comptabilité. Enfin, quasiment, parce que vous prenez en considération le carbone.
Exactement.
C'est que tu calcules le carbone, vous faites hyper attention sur les crèches en particulier, enfin, on va y revenir, mais sur les humains et donc sur la finance. Exactement. C'est marrant, ce qui est Orpea juste à côté, donc clairement je les recevrai ça, donc je vais les citer. T'as parlé d'éducation, c'est quoi le rôle de l'éducation pour toi aujourd'hui, en particulier à un niveau crèche, donc qui est un niveau assez, assez jeune et j'aimerais bien que tu me parles aussi des actions que vous menez justement dans la protection de l'environnement à travers l'éducation.
Alors l'éducation, pour moi, c'est évidemment la clé de tout. Moi, je suis passionné du sujet depuis toujours dans mon environnement familial. Tout le monde est prof, ou assistante maternelle, ou psychologue de jeunes enfants, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour moi. Et en fait, ce qu'on a compris depuis 15 ans, nous, on vit une révolution hallucinante dans notre métier. Depuis 15 ans, les neurosciences sont rentrées dans le métier des crèches. Et on a compris, factuellement, que les intuitions qu'on avait étaient réelles. C'est-à-dire que 85% des connexions cérébrales se créent avant 5 ans, révolus. Et donc, tout ce qu'on va créer comme précondition éducative avant l'entrée en primaire est déterminante. Je te donne deux exemples. Premier exemple, quand tu parles avec un enfant des animaux, si tu lui parles d'un chien, en lui disant un chien et qu'un chien, c'est pas du tout la même chose que si tu lui dis un teckel, un berger allemand, un golden retriever. Mmh. Il y a des associations qui vont se faire entre le nom du chien, la taille du chien, beaucoup de choses qui créent des connexions cérébrales spécifiques. Et dans les milieux favorisés, c'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de niveau intellectuel ou niveau d'études plutôt que niveau intellectuel, parce que les niveaux intellectuels n'a pas grand voir avec les études, mais on va dire un niveau de CSP plus fondé sur le niveau d'études. Les parents vont avoir ce réflexe, pas forcément dans les milieux plus défavorisés. Et donc nous, notre job, on a 19% d'enfants dans nos établissements qui sont sous le seuil de pauvreté défini par la CNAF, c'est de créer ça, d'aider nos professionnels de crèche à faire ça. Quand on donne à manger à un enfant, d'être capable de lui verbaliser ce qu'il y a dans sa cuillère. Et puis l'autre point, c'est ce qu'on appelle les proto-mathématiques. En fait, sans le savoir, on fait des proto-mathématiques toute la journée quand on est un très jeune enfant. Si je te donne un verre d'eau et que tu as 3 ans et que je te dis je te donne un verre d'eau à moitié rempli, si je te dis je viens de vider la bouteille, il se passe des choses dans ton cerveau autour des volumes, des mots qui vont avec, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont faire rentrer dans l'apprentissage. Et puis il y a des catégories. En France, on a beaucoup parlé du genre ces dernières années. Et par exemple, sur ce sujet, il y a des points qui sont pas du tout polémiques sur lesquels on veut travailler. Par exemple, la relation père-fils. Moi, je prends très souvent cet exemple-là. Un père avec un fils de 2 ans qui n'arrive pas à tirer dans un ballon, intuitivement, il va assez souvent se dire il est pas bon en sport. Il va se créer cette catégorie dans sa tête et ça va poursuivre son éducation avec son enfant. Et son enfant, par mimétisme, a un risque de se dire je ne suis pas bon en sport parce que mon père ne le reconnaît pas dans ses yeux. Les femmes sont souvent un peu plus subtiles que les hommes sur ces sujets. Et en fait, il se passe qu'en fait, un enfant, en termes d'équilibre, sa capacité à aller shooter dans un ballon, ça peut se passer entre 0 et 5 ans et pas forcément à 2 ans. Donc nous, on fait tout un travail sur l'équilibre, ce qu'on appelle la motricité ou la motricité fine. pour que on respecte ce rythme et qu'on explique aux parents aussi qu'il faut travailler contre toutes ces catégories mentales. Donc tout ça, c'est passionnant, il se passe énormément de choses. Il y a des pays comme Singapour, par exemple, qui ont compris ça, qui investissent des milliards de dollars dans la petite enfance, parce qu'ils savent que s'ils veulent rester leader au classement PISA, ça passe d'abord par le 0-6 ans. C'est vraiment incroyable en termes de montant d'argent investi, de positionnement d'ailleurs des salaires des professionnels de crèche, etc. De l'autre côté, qu'est-ce que l'éducation va pouvoir finalement créer en termes environnementaux dans ces prochaines années? Moi, je pense que c'est les enfants qui vont changer les parents. Tu sais, c'est la fameuse phrase de quand tu veux construire ta vie avec quelqu'un, est-ce que je vais pouvoir le changer? En fait, tu sais très bien que c'est compliqué. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile qu'un enfant change un parent que l'inverse, finalement, sur ces sujets. Donc, tout le travail qu'on fait sur le tri des déchets, tout le travail qu'on fait sur la verbalisation de sujets autour de l'environnement en général, le travail qu'on fait sur le fait que les enfants puissent se réapproprier l'extérieur. Hein. Donc, par exemple, en Hollande, les enfants dans nos établissements font la sieste dehors, même l'hiver. Tout ça, c'est un travail de fond sur la relation à la nature, sur tous ces sujets. Et en France, on vit dans un pays où pendant des années, le régulateur dans notre métier nous demandait de mettre des sols souples à l'extérieur pour empêcher les chutes, etc., des dérivés du pétrole, à la place de mettre des pelouses qui sont quand même la base. Donc en fait, de revenir à la nature, et tous ces sujets, c'est très très important. Et on pense, et d'ailleurs on le voit déjà, que les enfants vont faire par eux-mêmes changer les habitudes petit à petit.
Et aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas, vous avez aussi vous faites faire aux enfants des cabanes pour les insectes. Il y a tout ce principe-là aussi.
Oui, alors aux Pays-Bas, on a tout ce travail. On a des très grands espaces extérieurs, voilà. Mais en France aussi, on a un concept qui s'appelle le dedans dehors où on fait en sorte. On a ouvert une crèche. On en a dans plusieurs endroits de notre territoire, mais ça se généralise notamment dans les Vosges. Je pense à celle-là parce que c'est assez marquant. Où les enfants vont passer 70% de leur temps dehors, y compris en hiver. Et en fait, il n'y a pas de mauvais temps. Il n'y a que de mauvais équipements. Donc, comment est-ce qu'on va leur apprendre ça? Et en fait, on sait que pour leur immunité, pour leur rapport à la nature, y compris pour leur apaisement. En fait, il y a une question qui se crée. Là, on est dans un studio où le son est extrêmement étudié et où il n'y a pas de violence sensorielle pour toi ou pour moi quand on se parle. Dans une crèche, même si on travaille le sujet, ou encore pire, dans une école où le sujet n'est très peu travaillé, le bruit, c'est une agression permanente. En fait, le fait d'être dehors, ça fait que tu parles pas sur le même niveau de registre vocal, etc. Donc sur tous ces sujets, beaucoup attirés par l'Europe du Nord, mais aussi maintenant beaucoup en France, on fait ça. Et un autre point qui est majeur pour moi, je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est la relation au travail manuel. En France, on est un pays intellectuel, et donc quelqu'un qui fait un bac professionnel va être potentiellement moins bien considéré que quelqu'un qui fait la filière dite générale. En Allemagne, pas du tout comme ça. Et ça se voit dès la petite enfance. Par exemple, dans les crèches en Allemagne, dès la petite enfance, dès l'âge de 3 ans, 4 ans, les enfants utilisent des marteaux, des scies, peuvent mettre par eux-mêmes une tarte dans un four. En France, tu mets un four à portée d'un enfant dans une crèche, on te l'a fait fermer. Et en fait, sur ces sujets, il faut recréer l'interculturel, parce que la réalité des choses, c'est que dans la catégorie mentale d'un Allemand, le geste manuel est noble enfant. Chez nous, c'est pas le cas. Donc en fait, on a tout un travail à faire pour faire interpénétrer les cultures sur ces dimensions-là. Et par exemple, sur la diversité, en France, on est particulièrement en avance. Il y a une sensibilisation, même si la société a des pics de violence, comme on le sait, il y a une sensibilisation des professionnels de la petite enfance à la diversité qui est absolument exceptionnelle.
Et tu parlais d'intergénérationnel. Du coup, ça me fait penser à un truc, je ne sais pas du tout si vous le faites, mais du coup, tu vas me le dire. J'ai dans cette idée qu'il y a en raison du baby-boom, de beaucoup de personnes qui sont à la retraite, mais qui sont seules et qui pourraient justement s'occuper des enfants. Et comme tu disais, il y a de moins en moins de professionnels de la petite enfance. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous essayez de créer, un pont entre les personnes de plus de 60 ans, j'ai pas envie de dire personnes âgées, mais des personnes qui sont plus âgées et des personnes et des enfants?
Alors c'est quelque chose qu'on crée, notamment dans certains établissements, on a des programmes spécifiques pour créer de l'intergénérationnel sur beaucoup la passation culturelle, toute cette histoire de temps long qui me tient tant à cœur. En revanche, le métier de la petite enfance, c'est un métier très physique. C'est un métier difficile, c'est un métier de très forte concentration. Moi, je compare souvent le métier de la petite enfance au métier de l'hôtellerie ou au métier du retail, du commerce. dans le commerce, parfois, il n'y a pas de clients. Et dans l'hôtellerie, c'est pareil. Tu peux discuter 5 minutes avec ton collègue, etc. Dans la petite enfance, c'est un peu comme quand tu es enseignant. Tu dois être totalement vigilant, mais encore plus accentué par rapport à un enseignant, parce que tu as la responsabilité physique de la vie de cet enfant. Et ouais. Donc, il y a un épuisement de la concentration, même si tu es volontaire et que tu aimes ton métier. Et le deuxième sujet, c'est que tu portes des enfants, tu les changes, etc. Et donc, pour des personnes de plus de 60 ans, c'est compliqué. Et on est plutôt dans la réflexion de l'aménagement des fins de carrière pour alléger la charge, d'accord, en fait, des collaborateurs, plutôt que d'aller essayer de tirer les carrières sur du temps très long.
On va parler de sobriété. Tu as signé une tribune dans Le Monde, si je ne me trompe pas, sur la sobriété des entreprises. Moi, je considère que la sobriété, ce n'est pas du tout suffisant, mais j'aimerais bien avoir ton avis et aussi de savoir, pour toi, c'est quoi la sobriété? Pourquoi tu as signé cette tribune? Enfin, comment tu envisages ce sujet-là, en fait?
Alors, pour moi, la sobriété, c'est un peu le point de départ qui peut permettre, dans une organisation, de créer un premier niveau de consensus fondamental et essentiel. Mais évidemment, c'est pas du tout le point d'aboutissement. Et la sobriété, elle est à trois niveaux. C'est d'abord une sobriété dans la consommation de tous les jours, sur allumer la lumière. Dans notre cas, par exemple, sur la nourriture, bien commander les repas. Chez Babylou, ça nous arrive de jeter des repas parce qu'on a mal calibré. Alors en France, on a des normes très très exigeantes qui le sont peut-être d'ailleurs trop. Où il faut qu'on travaille avec les pouvoirs publics, qu'on soit capable. Il y a toute une réflexion dans certains pays sur les délais de péremption, etc. Et je pense que sur ce sujet, il faut qu'on remette ces points-là sur la table. Donc, il y a ça. Le deuxième point, c'est une sobriété managériale. Dans des métiers d'éducation, c'est très important. C'est-à-dire que la sobriété, c'est pas que celle de l'environnement, c'est aussi la façon avec laquelle tu vas t'adresser à ton collaborateur, lui prendre du temps sur son temps de travail, la passation en fin de journée, penser à sa vie personnelle. Peut-être qu'il a pas envie de rester un quart d'heure à poireauter avec son chef devant la crèche à discuter. Et ça, en fait, t'es le chef, t'es enthousiaste, tu penses que les gens sont contents de te parler. Et en fait, le troisième point sur la sobriété, c'est de se dire, la capacité à créer du collectif, quand tu es une grosse organisation comme la nôtre, doit passer par une obsession d'avoir des petits éléments en termes de management. Sinon, tu passes vite dans de la technocratie. Donc, la sobriété, c'est pas de technocratie. Et je pense que le risque, nous, on a 12 000 collaborateurs, comme je disais tout à l'heure, on peut très bien, très vite créer une technocratie qui décide pas, qui fait de la réunionnite, etc. Ouais. Donc des sujets comme une réunion, une décision, moi c'est mon obsession, c'est déterminant. Si on est sur l'environnement, dans notre métier, on a beaucoup travaillé sur l'énergie, on a investi 4 millions d'euros pour relamper toute l'entreprise, je pense qu'on est vraiment assez bon sur tout ce qui est autour de l'isolement des bâtiments, les niveaux de chauffage, etc. On a un parc de voitures qui est hybride ou électrique, etc. Mais à l'échelle de nos collaborateurs, en proportion, le parc de voitures de Babylou, c'est tout petit. Moi, ça m'arrive de prendre l'avion pour l'entreprise, mais finalement, on est peu à le faire. Donc oui, c'est bien, ça fait plaisir aux dirigeants, mais c'est pas ça l'essentiel. Nous, l'essentiel, c'est premièrement le vrai gaspillage et la vraie consommation. D'abord, chez nous, ce sont les couches. Donc comment je travaille sur ces sujets? Et on est en train de travailler sur des vraies couches bio avec une start-up et sur l'usage. Ça, c'est vachement intéressant. C'est pas que de faire du bio que tu vas mettre à la poubelle. Le travail qu'on fait avec eux, c'est comment faire en sorte que le déchet qu'on a généré devienne, en l'occurrence, un outil d'isolation pour le bâtiment. Voilà. Ça, c'est la deuxième vie du produit que tu as utilisé. C'est vraiment de la régénération. Donc là, notre projet d'entreprise, c'est d'être dans l'économie régénérative. La réutilisation de nos déchets. Et puis, je pense que le point qui est aussi extrêmement important, c'est que il y a des points où il faut consommer moins. Et parfois, il faut se poser des bonnes questions. Par exemple, nous, on a en France 450 établissements, donc autant d'espaces extérieurs. On a mis en place des espaces pour familiariser les enfants avec les plantes, etc. Mais pas de véritable potager pour qu'ils consomment en interne. Donc là, un de nos objectifs, ça va être de se dire, mais comment je peux produire ma propre nourriture en respectant les normes, etc.
J'y pensais aussi quand tu parlais de nourriture tout à l'heure.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment un projet qui nous tient énormément à cœur et qui n'est pas forcément simple, mais qui est pour moi complètement fondamental.
Et on va parler évidemment de leadership. Un sujet dont tu m'as parlé, toi, et que je trouve effectivement extrêmement important, c'est les rituels. Moi, je pense que c'est important dans la société de manière générale, parce qu'on les a perdus en très grande majorité. Mais toi, tu m'en parlais aussi au niveau managérial. Quelle forme ça prend chez Babylou, les rituels ?
Alors, les rituels, de manière... je pense qu'il y a deux points d'entrée majeurs dans une entreprise, en tout cas une entreprise de service avec beaucoup de monde, c'est la gouvernance. Je crois que la gouvernance doit être très claire, très partagée, très précise, mais avec des vraies responsabilités, on pourra en parler si tu le souhaites, et les rituels. Les rituels, ça veut dire qu'un manager qui a en moyenne dans une organisation comme la nôtre, entre, on va dire entre 5 et 12 direct report, il doit, une fois par mois, avoir un moment dédié. Alors on va pas compter le mois de juillet, le mois d'août, voilà, on va dire que c'est 10 fois dans l'année peut-être, mais en tout cas avoir un moment, un vrai moment dédié. Et le rituel, il est lui-même ritualisé. C'est-à-dire qu'on a travaillé, nous, sur un concept qui s'appelle le boss, leader, coach. Un manager doit être à la fois chef, parce qu'en fait, un collaborateur a besoin de décision. Quand tu as besoin de décision, c'est pas du top-down, c'est une décision qui peut être une décision simplement d'éviter de perdre du temps. Elle n'est pas forcément bonne, mais c'est là. La deuxième, c'est... d'être un leader, c'est-à-dire de pouvoir l'inspirer, lui donner le sens que la boîte crée, etc. Et le troisième, c'est d'être un coach. Et ce volume de coach, c'était quelque chose qui était très, 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 très lointain. Donc, au global, quand tu fais ton rituel, la première chose, c'est que tu t'intéresses à la personne. Voilà. Comment ça va dans ta vie? Donc, ça t'oblige à la connaître. C'est un temps qui n'est pas forcément très long, mais c'est un temps de respect. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que tu as des priorités dans ton organisation. Et donc, ces priorités-là, tu les annonces sur ta feuille stratégique de début d'année et tu dois les suivre. Donc, la personne, quand tu la vois, elle sait que tu vas suivre ces 3 à 5 points maximum avec des éléments factuels de mesure. Et ensuite, le dernier point, c'est que tu te mets d'accord sur des objectifs qui sont des objectifs différents. Par exemple, quand tu parles avec une directrice de crèche, ça va être la rétention de son équipe, ou ça va être le projet qu'elle va avoir avec la mairie de sortie extérieure des enfants. Bon, bah, là, ça va être sur un temps beaucoup plus ouvert. Mais ensuite, en tant que manager, en fait, tu dois essayer, pour nous, c'est notre culture, d'être dans ce qu'on appelle le zéro calorie, donc le reporting zéro calorie, c'est-à-dire que c'est pas le chef qui va faire le compte-rendu. En fait, c'est le N-1 qui va par lui-même produire en fait un retour de ce rituel qui va permettre de voir si on s'est bien ajusté. Trop facile, le chef descendant qui en sortant te donne les 3 objectifs dont tu as parlé. Non, c'est est-ce que la personne a compris ses objectifs ou au contraire des sujets qui doivent rester au débat et qui ne sont pas tranchés et les informaliser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Moi, je crois pas à l'entretien annuel comme unique rituel majeur de l'année. Pour moi, l'entretien annuel, finalement, c'est un espèce de moment où tu vas venir un petit peu finalement rassembler tous ces rituels que tu auras eu pendant l'année. Et le dernier point qui est majeur, c'est que la fonction RH évolue énormément dans les entreprises aujourd'hui. Et finalement, la RH dans une organisation comme Babylou et les coachs qui l'accompagnent, en interne ou en externe, sont constamment en fait en questionnement sur le développement de la personne, en se disant, mais en fait, l'entreprise doit développer ton employabilité. Et en fait, tu ne restes pas dans l'entreprise pour des questions uniquement, même si c'est très important, de valeur, d'adhésion à son projet, etc. Tu y restes aussi parce que tu te développes toi-même. Et moi, je dis souvent aux collaborateurs qui quittent l'organisation en de très bons termes parce que ils n'ont pas l'opportunité qu'ils veulent, ou ils veulent bouger géographiquement, ou ils veulent tenter un autre secteur, etc. Mais attendez, mais vous reviendrez sûrement un jour parce qu'on se quitte bien, qu'on a développé votre employabilité, que quelqu'un d'autre a eu envie de vous. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, je crois, j'ai fait un petit post sur LinkedIn où j'ai remercié Decathlon. Parce qu'on a embauché pas mal de gens de chez Decathlon, qui sont très très bien formés. On en a encore beaucoup dans l'entreprise. Ça paraît avoir rien à voir avec notre métier. Mais c'est une boîte de passion, de valeur. Mmh. Et je sais qu'il y a des collaborateurs qui sont passés par Decathlon, qui ont passé 3-4 années chez Babylou, qui vont ensuite retourner dans ce métier du sport. Et parfois, et je prends vraiment cet exemple parce qu'il me paraît vachement important, c'est pas uniquement le secteur d'activité. C'est en fait des valeurs de fond, une façon de se comporter qui va se retrouver dans différentes entreprises.
Les valeurs, c'est un sujet qui est hyper important parce que souvent, les valeurs sont définies par une agence. Et c'est souvent bullshit. C'est-à-dire que c'est les valeurs du moment, etc. Comment vous avez réussi, enfin je ne sais pas si vous avez réussi, mais à éviter cet écueil en fait. Et que ce soit des valeurs qui soient vraies, c'est-à-dire qui soient vécues par les salariés au quotidien. Et simplement, enfin moi l'exemple que j'ai, tout simple, hein, c'est que tu demandes aux personnes, au pire à l'équipe marketing, ça m'est déjà arrivé de demander à une équipe marketing c'est quoi les valeurs de la marque, et en fait sans le brand book ils n'étaient pas capables de répondre, donc autant dire que c'est pas des valeurs qui sont pas... c'est complètement bullshit. Mais idéalement, il faudrait que tous les salariés soient capables de citer ces valeurs. Déjà, il ne faut pas qu'il y en ait 50, mais comment vous avez réussi, ou si, enfin, peut-être que vous avez du mal, à s'assurer que ces valeurs elles sont vraies?
Mais d'abord, définir des valeurs, enfin, je suis désolé, je vais toujours revenir au même sujet, mais c'est long. Et nous, là, il se trouve que, je me pose la question, mais on est en plein sur le sujet. Et en fait, on a commencé il y a 18 mois. On écrit un projet d'entreprise globalement tous les 5 ans. Donc maintenant, on s'est dit qu'on allait écrire un projet qui allait durer pour 10 ans, mais qu'on retravaillerait tous les ans à partir de dans 3 ans. Et on est en train de travailler sur 3 valeurs. Moi, j'ai demandé ce qu'est 3 valeurs communes, partagées par l'ensemble de nos pays, etc. Et en ce moment, par exemple, il y a une vraie question sur la valeur qui est ressortie des équipes. Donc, on a fait des ateliers dans tous les pays. On a réuni une task force d'une trentaine de personnes venant de différents pays qui sont pas du tout des gens qui sont des dirigeants. Hein. C'est des responsables de l'éducation, des responsables de secteur, des directrices de crèche, etc. Et en fait, le mot passion est ressorti. Et en fait, le mot passion, nous, les dirigeants, on s'est dit, mais... Est-ce qu'on a le droit de décréter la passion? Et en ce moment, il y a tout un débat dans l'entreprise qui va être tranché dans les semaines qui viennent. Et globalement, ce qui nous remonte du terrain, c'est beaucoup... mais en fait, si j'ai envie d'être passionné, oui, c'est pas facile. Oui, je subis, je suis dans un métier où il y a des protocoles, etc. Mais permettez-moi d'avoir cette ambition, même si elle est très élevée. Et c'est assez amusant parce que nous, les dirigeants, parfois, on se bride un peu en se disant... on a peur d'aller trop loin. Donc... finalement, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, je pense qu'un des risques, si c'est nous les dirigeants qui décidons ces trucs-là avec des agences, c'est de faire une espèce d'eau tiède, où on a envie d'embrasser un peu tout le truc, et personne ne s'en rappellera. Donc les valeurs, c'est super clé. Mais si tu veux, sur le fond, moi, l'espèce de tarte à la crème qui consiste à dire « Regarde, on a des valeurs, on a la plus belle boîte, etc. » Elles sont fixées au mur et personne ne les respecte. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Donc, je prends ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. Et ce qui compte, c'est ce que les gens vivent. Et donc, un des principes clés chez Babylou Family, c'est les entretiens de sortie. Et donc, les gens qui nous quittent, même quand c'est difficile, bah, on fait un entretien de départ. Et parfois, ils sont pas contents. Et parfois, ils ont pas tort. C'est pas forcément très souvent, mais ça fait toujours un peu mal. Et le dirigeant, ça, j'insiste beaucoup là-dessus, j'en parle beaucoup aux jeunes qui nous rejoignent et qui vont être manager un jour, directeur de site ou des fonctions différentes au siège. Le dirigeant, le manager, toutes les merdes atterrissent sur son bureau. Donc, il peut se dire, tous les salariés sont tordus, tout le monde est toujours en retard, etc., etc. C'est 5% des gens qui sont mal intentionnés, maximum. On a 5 autres qui peuvent avoir des problèmes dans leur vie, qui expliquent temporairement des difficultés. Mais l'immense majorité des gens avec qui on bosse sont des gens formidables. Et en fait, les valeurs, on va dire que ça va être un espèce de guide pour eux, méta. Mais la réalité des choses, c'est qu'ils ont déjà en eux ce qui peut leur permettre managérialement d'être extrêmement puissants. Et ça, c'est un mélange de responsabilisation des personnes, avec des feuilles de poste qui soient claires. C'est pareil, enfin... Moi, j'étais très passionné par l'entreprise libérée. Il y a plein de choses qui m'ont passionné sur l'allocratie et qu'on met en partie en place chez Babylou. Mais je ne crois pas possible aujourd'hui de se développer professionnellement si tu t'es pas mis d'accord avec ton organisation sur une feuille de mission qui peut être plus ou moins précise en fonction des jobs. Donc, parfois, il y a des fondamentaux comme ça qui permettent aux personnes de se dire « je me positionne sur quelque chose de particulier ». Moi, est-ce que demain, ma feuille de route en tant que dirigeant, c'est de faire croître l'entreprise, d'améliorer sa qualité et son niveau éducatif, ou de baisser le turnover ? Est-ce que je peux vraiment faire les trois à la fois, ou est-ce qu'il ne faut pas que je définisse un ordre pour arriver à le construire ? C'est pareil au niveau de chaque manager.
Et tu as beaucoup utilisé le mot « chef ». Du coup, je voulais savoir... Enfin, j'avais deux questions qui sont liées à ce mot. D'abord, ton rapport au pouvoir et à la réussite. Et aussi, en termes d'organisation, justement, est-ce que vous êtes hyper pyramidal ou est-ce que vous avez intégré une forme d'horizontalité quelque part ?
Alors, moi, je pense que le pouvoir, il faut le prendre. Je crois absolument pas au discours convenu qui consiste à dire « le pouvoir c'est mal », etc. Passer sa vie à critiquer les politiques qui sont soi-disant tous pourris, etc. Moi je pense que 90% ou 95% des hommes politiques, comme des managers, sont des gens formidables. On nous parle souvent que des 5% qui sont pas bons, mais voilà. Il faut avoir le courage d'aller prendre le pouvoir. Et quand on l'a, il faut avoir le courage de le partager. Et il faut avoir le courage de s'arrêter au bout d'un moment. Et donc, nous, chez Babylou, hier, j'étais avec des dirigeants et j'ai découvert une dirigeante incroyable à un niveau régional. J'ai vu ma responsable RH aujourd'hui, je lui ai dit, mais pff, voilà, j'ai découvert quelqu'un d'incroyable, c'est génial, mais faut la pousser. On a des programmes internes, on a un programme qui s'appelle LEAD où on développe les gens. Donc, il faut aider les gens. Nous, on a un métier de femme. Je suis un homme à la tête de l'organisation, mais on a 90% de femmes. Et on est un métier de professionnel de terrain, d'infirmier puériculteur ou de collaborateur qui ne se destinait pas forcément à être des hauts dirigeants. Le dirigeant de la France, un infirmier puériculteur. La patronne du Moyen-Orient chez Babylou, c'est une femme ça fait 7-8 ans qu'elle est entreprise et qui a monté différents échelons. Donc tous ces sujets-là, en fait, il faut permettre à ces gens de casser les plafonds de verre pour avoir envie du pouvoir. Mais il faut leur avoir donné la culture pour le partager. Le partager, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire ne pas prendre de décision. Ça veut dire être capable de définir des zones de responsabilité qui sont confiées à des gens qui peuvent les manager. Donc moi, je crois à ça et je pense que dans un pays comme la France en particulier, l'idée selon laquelle on va laisser toutes les décisions à l'économie sociale et solidaire, à des citoyens engagés. Moi, j'ai mes engagements. Je suis président d'un théâtre à Marseille à titre bénévole depuis 10 ans. C'est passionnant. Je fais des choses et tout le monde dans la société veut faire ça. Mais ne confondons pas tout. Aidons l'économie sociale et solidaire à se développer, mais acceptons qu'il y ait des entreprises capitalistes qui puissent bien faire leur boulot et des hommes politiques responsables. Tu me posais la question du pouvoir.
La réussite.
Et de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est hyper clair. Et c'est mon but dans la vie. C'est de changer la société. Et tu vois, on s'est rencontrés à la CEC. Je suis passionné par le climat. Toutes les jeunes générations, mes propres enfants sont sur ce sujet toute la journée et me font évoluer. Et en fait, très souvent, et je me mobilise à fond sur ce sujet, on doit le faire à fond, mais j'ai toujours « mettez la brique sociale avec ». Et en tout cas, moi, je me sens vraiment dans cette logique de se dire « notre pierre, en tant qu'entreprise, ça doit être de faire évoluer la société positivement ». Moi, je suis dans l'éducation, donc ce que je dois faire, c'est faire en sorte que de plus en plus d'enfants aient accès à une éducation dès l'âge de 3 mois en France ou d'1 an dans les pays où ça commence à cet âge-là, pour rentrer dans les apprentissages avec sérénité et dans leur vie de citoyen, d'homme ou de femme, avec mesure, liberté, on va dire. C'est terrible avec ce qui se passe en Russie. On voit comment un dirigeant peut changer une société en peu de temps. Donc, nous, notre responsabilité, c'est ça. Et en démocratie, c'est compliqué. Donc, on est dans l'éducation, c'est ça. Mais je trouve ça génial aussi qu'il y ait des types comme Steve Jobs qui a inventé l'iPhone, hein, qui est quelque chose d'absolument fondamental aujourd'hui sur plein de sujets. Il y a des dérives insupportables sur ces sujets-là. Nous, il n'y a pas d'outils digitaux chez les enfants de moins de 6 ans. En revanche, grâce au digital, on peut former tous nos collaborateurs. Quand ils ont un smartphone, on peut s'assurer qu'on a les bons ratios d'effectifs dans les établissements, etc. Donc finalement, c'est vraiment cette question de l'impact positif sur la société. Le fait de réussir à titre individuel, c'est un autre sujet qui est très personnel pour chacun. Moi, je crois beaucoup à un sujet très basique qui est l'amour de son prochain dans sa famille, avec ses potes, et voilà. Mais c'est pas la boîte, ça.
Non, ça c'est autre chose. Tu parlais tout à l'heure des rituels. À ton niveau individuel, comment tu mets en place ces rituels? Qu'est-ce que tu fais précisément en tant que leader? Est-ce que tu fais un qui tu vois?
Alors, en fait, il y a deux dimensions. Il y a une dimension gouvernance. Donc, quand on dirige une organisation très significative, en fait, le point clé, c'est vraiment d'avoir mis en place une gouvernance qui soit claire pour tout le monde. Dans notre cas, il y a des zones géographiques, donc il y a des boards internes le patron du pays va être le président de ce board. On va avoir des collaborateurs qui vont être board members dans cet espace-là. Et on va définir une fois par an une journée complète. On va travailler sur la stratégie. Et après, on aura trois rituels, donc un par trimestre. On va se retrouver une demi-journée. Donc moi, je ne suis pas forcément là à chaque fois, parce que quand on a sept régions, je ne peux pas faire 28 meetings par an ça. Donc tu dois être délégué, avoir des gens qui vont à ta place. Donc dans ces rituels-là, pour nous, ce n'est pas que le dirigeant. C'est le COMEX de cette zone qui vient s'exprimer, définir sa stratégie, la partager avec les hauts dirigeants de l'organisation, qui sont finalement des personnes qui ont apporté une valeur ajoutée, une capacité à se poser des questions un peu autrement. Le deuxième point, c'est que tu as quand même des direct reports avec lesquels il faut avoir des rituels. Moi, en tant que patron, à mon échelle, j'ai une quinzaine de direct reports. Je n'ai pas le même type de rituel avec chacun. Je ne dirai pas la même chose à quelqu'un qui va avoir la responsabilité d'une dizaine de sites ou doit avoir le même type de rituel avec chaque directeur de site ou directrice, dans notre cas, le plus souvent. Mais je vais avoir des collaborateurs qui sont sur des sujets qui vont nécessiter ce qu'on se voit une heure tous les 15 jours de manière approfondie. J'en ai d'autres qui ont une autonomie beaucoup plus forte, sur lesquels on va avoir des rituels plus informels, et enfin d'autres avec lesquels on va se voir une fois par mois. Ce qui m'importe, moi, c'est qu'il y a ce fameux zéro calorie, c'est-à-dire des choses qui me remontent spontanément. Et là, on est sur, on va dire, une catégorie qui est en général de l'ordre du mois. Et enfin, le truc qui est très très important, c'est que les gens prennent leurs vacances. Je pense que c'est un des points majeurs chez Babylou, qui vient des fondateurs de l'entreprise, qui ont toujours montré l'exemple, qui aujourd'hui sont plus opérationnels depuis des années, mais qui restent quelque part comme des gens qui ont créé la culture. C'est on prend ses vacances dans l'entreprise, et quand on les prend, c'est des vraies vacances. C'est-à-dire que...
Tu coupes.
Moi, on coupe. Moi, j'ai mon portable parce que je suis le PDG et que parfois, il peut y avoir des soucis. Donc, quand il y a un vrai gros souci, ça m'arrive. Mais ça ne m'arrive jamais de recevoir des mails anecdotiques pendant mes congés, et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement partagé dans l'organisation. Et ça, cette espèce de lien non coupé, je pense que les gens reviennent crever. Donc c'est fondamental. En France, il y a un truc particulier qui est compliqué, c'est les zones. Moi, j'habite à Marseille, je travaille à Paris. Donc parfois, je prends mes vacances sur une zone qui n'est pas celle des gens avec qui je travaille. On est de plus en plus à vivre ça en France, dans plein d'entreprises. Chez Babylou, c'est 15 à 20% des collaborateurs qui ont des fonctions importantes, qui vivent dans des zones de vacances différentes. Et là, tu dois apprendre à respecter la coupure des vacances au moment où tout le monde est dans son intensité. Et c'est là où le rituel prend toute sa puissance. Parce que tu vas te dire, écoute, pendant cette période-là, je serai off, mais on en parlera au moment du rituel.
Vous avez rejoint l'UNICEF ?
L'UNESCO.
L'UNESCO, pardon, dernièrement. Tu peux nous parler de ce partenariat et pourquoi vous l'avez mis en place ?
En fait, on a beaucoup réfléchi, puisqu'on a investi beaucoup de moyens, beaucoup de temps. On a beaucoup de gens aussi qui travaillent sur l'éducation et les neurosciences. 70 personnes dans le monde dédiées à 100% à ça. Donc les programmes éducatifs, ce qu'on va faire, on travaille avec des universités sur des programmes, sur ce qu'on appelle des recherches-actions sur le terrain pour voir comment... les enfants vont acquérir le langage, comment quand tu es exposé à plusieurs langues, ça se passe, comment si tes parents, par exemple, parlent une langue différente de la langue vernaculaire du pays dans lequel tu te trouves, mais qui n'osent pas te la parler pour des questions culturelles. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? T'entends ta maman parler à ses copines en Wolof ou en Tagalog, et en fait, à toi, elle ne le fait pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, sur tous ces sujets, on travaille beaucoup. Et on s'est dit, finalement... allez, on réfléchit avec qui dans le monde on peut discuter de ça. Et on s'est dit, on n'est pas énorme, hein, Babylou, c'est 12 000 personnes, 800 millions de chiffre d'affaires à peu près. Mais quand même, on commence à avoir une certaine taille. Osons, et on est allé aborder l'UNESCO. On a rencontré Stéphania Giannini, qui est la patronne de l'UNESCO. Et une femme incroyable, mais une accessibilité. Elle était ministre de l'Éducation dans son pays, en Italie. Elle m'a invité à déjeuner dans Paris. Je l'avais jamais vue de ma vie. Elle a pris du temps en disant, mais tiens, ça m'intéresse Babylou, une entreprise comme la vôtre dans ce secteur. Et puis très vite, elle m'a dit, mais on crée la coalition globale pour l'éducation. L'objectif, c'est de rendre l'éducation possible et réelle pour tous les enfants de moins de 8 ans dans le monde. Est-ce que ça vous intéresse ? Elle dit, mais carrément, à fond. Et moi, je lui ai dit, ben, ok, ça m'intéresse à fond, mais j'ai envie que Babylou se projette dans ce rapprochement majeur entre les pédagogies traditionnelles, les Montessori, Freinet, Pickler, Loxi, Steiner, et les neurosciences. Et je voudrais que Babylou puisse créer avec des tiers un congrès des neurosciences, une réflexion, de la production là-dessus. Et donc l'UNESCO nous a dit banco, faites-le avec votre fondation, pas l'entreprise directement. Et en fait, on s'est mis d'accord. Et donc on fait le 29 septembre notre premier congrès des neurosciences et de l'éducation avec la fondation Babylou et l'UNESCO, dans le cadre de la préparation de la conférence mondiale de l'éducation qui a lieu à Tashkent au mois de novembre, dans laquelle je serai. C'est pas du tout anecdotique. En fait, ce qui se passe dans le monde, on parlait d'environnement, moi j'ai vu en Inde, dans des crèches Babylou, des innovations, parfois technologiques, avec l'usage de QR code, par exemple, sur la consommation d'eau au robinet, qu'on n'aurait jamais imaginé en France. Donc, dans cette coalition globale pour l'éducation, on va travailler sur des sujets de fond, sur le contenu éducatif, sur la façon de développer les enfants, mais on va aussi s'échanger des recettes entre les différents pays qui pourront nous permettre de progresser. Ce que je racontais sur utiliser des outils ou mettre une tarte dans un four à l'âge de 3 ans en Allemagne, ben pourquoi on ne le fait pas en France ? Ben voilà,
c'est des vraies questions que les parents se posent aujourd'hui. Est-ce qu'un enfant il sera mieux outillé en connaissant les maths et l'histoire, ou est-ce qu'il sera mieux outillé en connaissant les plantes et...
Mais c'est un énorme sujet. En fait, en France, on est en train de revenir sur le débat des mathématiques. Je peux prendre une minute là-dessus parce que c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Objectivement, le niveau des mathématiques baisse en France, c'est mesuré, etc., chez les enfants, etc. Bon, faiblement, mais un peu. Et oui, il faut remettre un peu plus d'exigence sur les mathématiques, en particulier chez les filles, puisqu'on se rend compte que on attache plus d'importance aux garçons, mais aux filles, dès le CP. Donc c'est marrant parce qu'en crèche, on l'a compris depuis assez longtemps, la maternelle aussi, mais ça se passe en CP. Ok, il faut le faire. Mais un enfant du 21e siècle, il a un niveau de stimulation complètement vertigineux. Moi, je suis né en 1972. Il est exposé au digital toute la journée. Les types de messages qu'il voit dans la rue, par exemple, la violence des affiches, qui sont beaucoup plus sexualisées. Alors, il y a peut-être moins de femmes qui ont des seins nus aujourd'hui qu'il y a 20 ans sur les affiches de pub. Mais en revanche, l'agressivité des messages est beaucoup plus forte. Mmh. Quand il y a des événements comme ce qui se passe en Ukraine, la guerre est partout, la télé continue, etc. etc. Et puis, l'enfant est exposé aux jeux vidéo, par exemple, ou à des tas de nouvelles pratiques, le fait qu'il ne mange pas la cuisine que ses parents ont préparée, mais celle qu'on lui a livrée, qu'il voit ce que c'est qu'un livreur, enfin plein de choses. Tout ça, c'est une accumulation de savoir colossale, d'interaction, de compréhension, de comment j'utilise ça, comment je gère ça, comment je vais finalement canaliser mon temps pour pouvoir à la fois être dans le virtuel, dans le réel, etc. Et donc, on ne peut pas demander aux mathématiques du XXIe siècle d'être aussi factuel et dans le par cœur qu'au XXe siècle. Mmh. Et nous, dans nos métiers d'éducation, on doit apprendre à finalement créer des connexions naturelles pour les enfants qui vont leur permettre de rapidement retrouver des réflexes mathématiques, langage, pour prendre les deux points clés, tout en ayant un stock de connaissances qui soit en partie externalisé. Et c'est compliqué pour nos générations. Mmh. Mais voilà, c'est une balance. Il faut réapprendre des poésies, parce qu'on ne peut pas que avoir sa mémoire dans le cloud, mais on ne rapprendra pas autant de poésie que quand nous, on était petits. Mmh. Donc, il faut accepter les deux. Et oui, c'est complexe.
C'est quoi les conseils que tu donnerais, je ne sais pas si c'est conseil, mais que tu donnerais à d'autres entrepreneurs qui ont envie de bouger, de se dire, en fait, notre entreprise, elle doit avoir un impact. Aujourd'hui, je pense que la RSE, c'est beaucoup du discours et c'est peu de... C'est une réalité qui est très modeste, on va dire, dans la plupart des boîtes, en particulier dans des boîtes comme la tienne, où il y a des actionnaires. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Par où on commence ? Qu'est-ce qu'on fait ? Par la sobriété ?
Pour moi, c'est un truc qui a été une révolution chez nous, hein, mais encore une fois, ça a pris du temps, et puis c'est de l'argent, parce que... C'est 18 mois, 2 ans, 3 collaborateurs à temps plein, que là-dessus. Alors, parce qu'on est déjà un peu gros, mais définir ce qu'on doit mesurer. Donc, de payer quelqu'un qui connaît la boîte, qui est là depuis longtemps, en toute indépendance, aller regarder toute l'entreprise et à voir ce qu'il faut vraiment mesurer. Et chez nous, on a été hallucinés du nombre de trucs qu'il fallait mesurer. Et donc, ça nous est remonté, et maintenant, on mesure. c'est pas facile pour le dirigeant. Parce que tu te rends compte que sur ta consommation électrique, parfois sur l'accessibilité que les collaborateurs vont avoir à du matériel pédagogique qui est fondamental pour eux, mais bon, t'as pas fait trop gaffe à comment t'as référencé tes fournisseurs, ils sont pas dans tes systèmes, et donc c'est compliqué de commander, etc. Ils ont pas en temps ce qu'il faut, etc. Donc, sur tous ces éléments-là, c'est que dois-tu mesurer, et c'est pas le dirigeant qui doit le définir. Sur ce sujet-là, sur la performance économique, sur le turnover des collaborateurs, c'est son job. Sur ce sujet-là, il doit laisser une indépendance, et pour moi en interne, si possible, potentiellement aidé parfois par un consultant responsable, mais pas toujours, nous on a la chance d'en avoir trouvé, mais globalement, voilà. Et on arrive avec un cahier des charges, et ensuite il faut mesurer de manière extrêmement régulière, et nous on a un système d'audit interne, donc on a une équipe, c'est pas facile, hein. Dans notre métier des crèches, hein, je parle pas du tout de finance, là. Donc on a une équipe interne, qui produit 80% des audits. On a un deal avec une boîte qui s'appelle SGS qu'on a formé et qui fait 20% des audits de son côté sans nous. Et les collaborateurs savent qu'ils sont mesurés sur ces sujets. Et après, on leur donne des plans de progrès. On ne sanctionne personne, mais on leur dit la réalité. On leur dit dans ton établissement, je suis désolé, c'est peu d'entre eux, mais c'est une vérité factuelle. Ben, t'y es pas, en fait. Et nous, ça nous oblige, et ça, il faut avoir ça en tête de manière très claire, que bah, ça coûte de l'argent. Et je donne un exemple précis. Nous, nos audits, elles nous remontent à des trucs à réparer. Et donc, on a mis en place un plan de rénovation, rien qu'en France, de l'ensemble de nos établissements, suite à toute cette démarche. C'est 4 millions d'euros par an. On n'avait pas du tout prévu, on a dû aller voir taper à la porte de nos actionnaires. Et je ne peux pas dire qu'ils étaient enchantés à l'idée de dépenser ça au départ, mais en fait, on leur a expliqué que c'était leur intérêt, parce que sinon on allait perdre les gens, etc. Je trouve que les actionnaires aujourd'hui, le dirigeant doit être un activiste de son métier. Le dirigeant doit être capable de dire à l'actionnaire, mais si vous voulez faire de la performance, il faut se mobiliser sur la qualité du parc quand tu as un réseau, sur le turnover des collaborateurs, etc. Et c'est pas magique, c'est pas que parce que tu fais tes rituels managériaux. Il y a des trucs où il faut investir. Donc typiquement, la salle du personnel, il faut la rénover. Parfois, il faut la changer de place pour qu'elle ait une fenêtre. C'est pas faisable partout, mais voilà, il y a des établissements que tu dois fermer. Donc chez Babylou, ces dernières années, dans nos différents pays, on a fermé une trentaine d'établissements. Et oui, tu détruis de la valeur. Et oui, c'est compliqué. Et ils gagnaient du pognon, en plus, pour beaucoup d'entre eux. Mais ils ne répondaient pas aux normes qu'on se fixe aujourd'hui. En fait, le truc qui est quand même particulier là-dessus, c'est qu'on ne communique pas sur ces sujets, parce que et je pense que c'est aussi une qualité qu'on a en France en particulier, c'est qu'on est assez humble, si on se compare aux anglo-saxons. Donc, je suis une chaîne de retail ou d'hôtellerie, ou je suis une entreprise de crèche, je ferme des établissements, je ne vais pas dire sur tous les toits, moi j'ai fermé parce que... Mais en fait, je pense que c'est un sujet où il faut qu'on se remette en cause. Et par rapport à ce que tu sous-entendais, c'est-à-dire que finalement, la sobriété, c'est sympa, mais c'est pas suffisant et qu'il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus engagé, il faut aussi avoir la capacité de communiquer sur les moments où on dit bah, « écoute, j'ai pris des mauvaises décisions, je reviens dessus, etc. Et » Et ça, je pense que... on n'a pas dans notre pays une culture assez forte de la remise en question positive.
Voilà. Et toi, comment t'as gagné ça alors ?
J'ai gagné ça parce que je me suis pris des claques, très concrètement. Je pense que j'ai fait des erreurs, et pas que moi d'ailleurs, dans l'entreprise, dans son ensemble, on a commis des erreurs. Ça m'est arrivé de choisir de me séparer de quelqu'un, et c'était une mauvaise idée. Et de m'en rendre compte 2-3 ans après, de prendre mon téléphone et d'appeler, de m'excuser, parce que j'avais pris une mauvaise décision, sur la base de mauvaises informations ou de mauvais jugements de ma part. Ça nous est arrivé parce qu'on voulait absolument être dans telle ville, de décider d'ouvrir une crèche sans avoir un espace extérieur. On ne le fait plus aujourd'hui, c'est pas possible, même dans Paris. Donc oui, c'est compliqué d'avoir de l'immobilier dans Paris et d'avoir un espace extérieur pour que les enfants sortent. Bah, quand on a ce qu'on appelle un multi-accueil, c'est-à-dire une crèche autour d'une trentaine d'enfants, bah, non, il faut un espace extérieur. Donc voilà, aujourd'hui, on voit les choses différemment. C'est plus cher, on gagne moins d'argent, mais voilà, c'est comme ça. Et le truc, je pense, qu'il faut avoir à l'esprit sur ces aspects-là, c'est aussi une question, et c'est vachement important sur la comptabilité, C'est que aujourd'hui, on amortit sur 9 ans, sur 10 ans ces bâtiments. Nous, on investit, on choisit des solutions aujourd'hui d'investissement sur le mobilier, par exemple, où on ne met plus de colle. On ne prend plus de mobilier avec de l'aggloméré, on prend du bois massif pour qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens, ce genre de choses, etc. On a un fournisseur français bien connu dans notre métier qui fait un super boulot. C'est fabriqué en France, ça s'appelle Matou. Ça nous coûte beaucoup plus cher. On se fournit chez eux. On a des super menuisiers qui sont des artisans qui viennent chez nous. Ça coûte beaucoup plus cher, mais ça dure 30 ans. La compta ne le traduit pas. Donc quand tu dis à ton actionnaire, je vais investir plus cher, au lieu d'investir X milliers d'euros du mètre carré, je vais investir 15-20% de plus. Mmh. Mais c'est pas grave pour vous, parce qu'en fait, ça va durer 30 ans. Ils te disent, mais attends, spontanément, mais comment je le traduis dans la valeur? Et en fait, c'est là où c'est la responsabilité du dirigeant. Et le dirigeant doit être capable, quand l'actionnariat change, ou quand il y a une agence de notation qui vient, ou quand il discute avec des investisseurs, de dire par lui-même, en extra-comptable, chez Babylou, je peux le prouver, les établissements qu'on a, et c'est audité, ce qu'on investit comme type de peinture, comme type de menuiserie, etc., ça ne dure pas 9-10 ans, ça dure 12 à 15 ans, dans des bonnes conditions, sans tirer sur la corde. Et ça, je pense que c'est un défi majeur. On n'arrivera pas... Je prends toujours l'exemple des parcs automobiles. Voilà, moi, j'ai une voiture de fonction. Ça fait 2 fois que je la prolonge d'un an. Globalement, on se fait signer un contrat de 4 ans. Puis tous les 4 ans, je change de bagnole. Ma bagnole est en très bon état, elle roule très bien. Je n'ai pas du tout besoin de la changer. Donc, voilà, le dirigeant doit être capable de se dire « Mais c'est quoi ce truc où les collaborateurs changent de voiture tous les 3 ans ?» On peut tout à fait changer son parc automobile tous les 5 ou 6 ans. Peut-être pas pour un gros rouleur. Mais voilà, c'est toutes ces petites choses qui n'en sont pas, et où la comptabilité ou les habitudes commerciales sont complètement à la rue par rapport aux besoins qu'on a aujourd'hui.
Parfait. Merci beaucoup, Xavier. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup d'avoir suivi. Rendez-vous sur un nouvel épisode de Ping. Ça sort toutes les 2 semaines. Vous pouvez vous abonner, pinguer des gens, le transférer. N'hésitez pas. À très bientôt.